Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Vous êtes bien sur la radio Inzambarate Kakawe. C'est le moment du journal de ce lundi 14 août 2023. Tout d'abord les titres. L'État compte couvrir le déficit budgétaire de 2023-2024 grâce principalement aux impôts et taxes. Mais des experts économistes estiment que ces derniers sont trop élevés pour débloquer, on croit, une pauvreté extrême. C'est le LUCOM qui fait ce constat. Et puis pourquoi les réformes recommandées il y a 10 ans dont la justice n'ont pas été mises en place? C'est cette question qui devrait motiver le gouvernement à organiser de nouveaux états généraux de la justice pour analyser les raisons de cet état de fait. Vous suivrez dans ce journal Faustin Dikoumana de la personne. Antonio Guterres a le devoir de voler au secours des réfugiés burundais qui sont quotidiennement persécutés par les autorités tanzaniennes pour les forcer à se rapatrier. C'est un appel lancé par la coalition des défenseurs des droits des réfugiés vivants dans les camps, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU. À toutes, à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le déficit budgétaire de 700 milliards de francs burundais pour l'exercice 2023-2024 devra être financé en grande partie par la dette intérieure, notamment par les impôts et les taxes. L'expert en économie Gilbert Nyongawo explique que cela est logique, mais trouve que ces taxes sont aujourd'hui trop élevées. Il l'a dit ce lundi lors d'un café de presse organisé par le LUCOM sur le thème « Financement du budget général de l'exercice 2023-2024 ». Écoutez-le.
Le déficit budgétaire pour cette année, il avoisine les 700 milliards de francs bouts. Si vous regardez par rapport au montant qui a été voté, qui est autour de 4000 milliards, vous allez constater qu'il est élevé en chiffre absolu. Donc c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement a la capacité et les moyens de financer le déficit. Et si vous regardez d'ailleurs ce qui est prévu, c'est qu'elle sera, on va dire, en grande partie financée par la dette intérieure. C'est-à-dire que le gouvernement va émettre le certificat des bons de trésor pour vendre sa dette, pour la rembourser pour plus tard. Donc c'est ça normalement le mécanisme qui est prévu. En fait, la dette intérieure, elle va augmenter dans la même proportion, mais il faut savoir aussi que dans le budget de l'État, il est prévu aussi un remboursement de la dette à la hauteur de 1000 milliards. Après, si vous regardez aussi les prévisions d'augmentation des recettes, surtout des recettes du budget de l'État, vont augmenter tel qu'est prévu, parce qu'il est prévu une hausse de 1000 milliards. Au niveau de recettes fiscales et non fiscales. Et c'est ça qui est peut-être, on va dire, on ne dirait pas aléatoire, mais c'est probabilisable, c'est ça les prévisions. Donc si vous regardez si, avec le temps, la proportion de ce qui est prévu va être réalisée à 100%, ou bien si ça va se réaliser à 90%. C'est ça qui est peut-être probabilisable. Il y a peut-être 10% d'écart. Le troisième phénomène, c'est aussi la hausse des taxes par rapport au budget de l'État de 2023-2024.
De son côté, Gabriel Roussili, président de l'ELICOM, trouve que ces taxes, outre qu'elles sont élevées, elles sont payées par une seule partie de la population qui n'est autre que le petit peuple suivi.
C'est vrai que le gouvernement doit faire payer les taxes, mais nous pensons qu'il doit y avoir de l'équité dans la façon de les demander à la population. Il faut que tout le monde soit concerné par les taxes, puisqu'aujourd'hui, le petit peuple donne les taxes pendant que les riches qui volent le pays continuent à se la couler douce. Comme nous avons crié depuis longtemps pour dénoncer la chose, aujourd'hui, le gouvernement a quand même décidé de faire payer une taxe sur la fortune pour les riches, mais cette taxe reste insignifiante parce que n'est que de 5%.
Parlons justice, disons, après la tenue des états généraux de la justice, il n'y a aucun changement dans ce domaine. Triste constat de Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités personnelles. Les états généraux de 2013 avaient pour but d'établir de nouvelles réformes dans ce secteur afin que la justice soit indépendante et reconnue comme étant un vrai troisième pouvoir. Costa Dikumana démontre que les choses vont au contraire de mal en pis. Selon lui, même le président de la République ne cesse de se lamenter à ce sujet. On l'écoute.
Normalement, on constate que dans ce pays, il y a un manque de volonté de réformer les choses pour les faire avancer. Le secteur de la justice nécessite des réformes profondes, mais on a toujours constaté que le pouvoir exécutif veut toujours phagocyter le pouvoir judiciaire. Et cela seulement qu'à travers les matériaux de la justice, de sa position dans le pouvoir, en profitant de sa richesse pour corrompre. Certains utilisent de l'argent, d'autres utilisent leur position dans le pouvoir pour instrumentaliser la justice. Et les conséquences immédiates, c'est l'impunité qui est consacrée. Beaucoup de dossiers de corruption restent impunis. Les arrestations arbitraires, il faut remplir les prisons de façon infinie. Les procès qui ne sont pas exécutés, les jugements qui ne sont pas exécutés, les magistrats qui se méconduisent, qui violent la loi, en posant des jugements judiciaires, le manque de protection des investisseurs, protection des droits de l'homme, tout reste problématique. Alors que à cette époque, il y avait des grandes recommandations, des grandes orientations pour que le secteur judiciaire soit réformé. Il s'agissait de reconnaître d'abord le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir à partir du statut de la Cour suprême, au niveau de ses moyens, de sa force, de sa capacité. Ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui incarne l'indépendance de la justice, c'est le président de la Cour suprême, c'est la Cour suprême avec son rang protocolé.
Il ajoute qu'il faut encore une fois organiser d'autres états généraux de la justice dans le but d'analyser ce qui empêche la mise en application de ces réformes. On l'écoute encore une fois.
Il fallait aussi une gestion professionnelle de la carrière des magistrats, des promotions qui sont accordées de façon politique pour influencer les magistrats. Il fallait une carrière, une gestion professionnelle de la carrière des magistrats avec un traitement meilleur par rapport à leurs fonctions. Troisièmement, c'était une inspection de la justice. En accordant l'indépendance aux magistrats, il fallait une inspection de la justice forte pour servir contre les magistrats véreux qui elles se méconduisent. Cette instance d'inspection de la justice doit avoir à son sein des magistrats bien expérimentés pour bien faire des études d'inspection par rapport au jugement rendu. Il fallait aussi l'accès à la justice, renforcer l'accès à la justice, les tribunaux, la logistique des tribunaux, pour que l'accès à la justice aux petits citoyens soit effectif, soit une réalité. Il fallait aussi promouvoir une justice pénale humanisée, pour que quand même les prisonniers continuent à avoir des prisonniers en ce nombre. Toutes ces pistes devraient effleurer des recommandations, mettre en application des réformes nécessaires, des réformes salvatrices pour que ce secteur soit contribué à asseoir la démocratie, la bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme et la relance économique.
C'était Faustin Dikumana, directeur national de Parcel.
Inzamba.
Suite de cette édition, pénurie du sucre de la Sesumo dans toute la province Makamba depuis près d'un mois. Les commerçants détaillants sont accusés de cacher ce produit pour spéculer sur le prix. Plus tard, les responsables des imbonneurs coulés sont cités parmi ceux qui cachent ce sucre. Le point avec Francis Nyongiri.
Selon les habitants de la province Makamba, la dernière distribution du sucre de la Sosumo date du 16 juillet 2023. Les consommateurs de ce produit disent que cette dernière distribution a été émaillée de spéculations plus que d'autres distributions. Une très minime quantité a été distribuée aux requérants. Les détaillants, qui sont à majorité membres du CNDD-FDD, cache ce produit pour le vendre ailleurs à des prix variant entre 5 000 à 6 000 francs burundais selon les mêmes sources. La police et l'administration en commune Makamba se regardent en chef de faïence depuis le début du mois d'août. À l'origine, les responsables de jeunes Imbonerakure en commune Mabanda prénommé Dieudonné et son adjoint Yves Ninazwe ont été fouillés. Ce qui n'a pas plu à l'administration et aux responsables du CNDD-FDD au niveau provincial. Ces derniers sont dénoncés par les habitants de ne pas détailler le cycle de la Sosumo ni les produits Braloudi qu'ils bénéficient de la part des grossistes. Les responsables du CNDD-FDD et l'administration menacent de faire muter le commissaire communal vers un autre commissariat pour avoir fouillé les domiciles de ces deux responsables des Imbonerakure sans leur avoir Des informations au sein de la police disent que la police a toujours saisi des boissons Braroudi appartenant à Yves Nihazoué, mais ce dernier est protégé par des autorités administratives et politiques. Des sources au sein des grossistes indiquent aussi que la distribution du sucre du mois d'août a déjà été faite pour les grossistes, mais que l'administration a interdit sa distribution aux détaillants avant la fixation du prix conformément aux nouveaux tarifs fixés par le gouvernement.
Le secrétaire général des Nations Unies est appelé à s'impliquer personnellement pour rassurer les réfugiés burundais qui vivent en Tanzanie suite à l'insécurité liée aux menaces de rapatriement forcé. Ils sont persécutés par les autorités tanzaniennes en connivence avec le gouvernement burundais. C'est le contenu d'une lettre que la coalition des défenseurs des droits humains dans les camps de réfugiés vient d'adresser au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La CBDH-UQAR lui rappelle la responsabilité de cette organisation en matière de la protection des droits humains. Léopold Chalangabo, vice-président de cette coalition, déplore que certains agents du ACR soient pointés du doigt d'être parmi ceux qui menacent ces Burundais de rentrer par la force.
Une situation qui est tellement mauvaise à cause de la maltraitance des réfugiés burundais par le gouvernement tanzanien qui actuellement soutenu par certains agents du HCR. Dès le début de cette année, la Tanzanie, via le directeur général en charge de réfugiés au ministère de l'Intérieur et aussi les représentants du gouvernement au niveau des camps, avaient beaucoup menacé les réfugiés burundais jusqu'au niveau de demander les ONG de suspendre les aides destinées aux réfugiés burundais. Nous avons été étonnés d'avoir entendu un agent du HCR disant que les réfugiés burundais doivent rentrer parce que la Tanzanie a refusé de leur octroyer de leur nationalité. Comme si les réfugiés burundais sont en Tanzanie à la recherche de cette nationalité, oubliant qu'ils sont là pour être à l'abri de l'insécurité qui les a poussés à l'exil. Dans cette lettre, nous avons aussi souligné qu'il y a des réfugiés qui ne peuvent pas rentrer sans qu'il y ait préalablement un dialogue inclusif entre les Burundais. Au Burundi, il existe encore des violations des droits de l'homme. Il y a toujours de l'intolérance politique, des maîtres des opposants, y compris même les rapatriés qui sont souvent menacés. Nous avons beaucoup parlé au secrétaire général des Nations Unies. Bien sûr, en terminant, nous lui demandons de s'investir personnellement pour dire non à la violation des conventions signées et ratifiées en 1951 avec les réfugiés et aussi demander à la Tanzanie de cesser ces actes de violation de ceux qui violent les conventions signées et ratifiées. Nous avons signalé que seul le dialogue inclusif inter-burundais sera la base du rapatriement massif des réfugiés burundais.
Sport à présent pour terminer. Au match amical de football a opposé samedi dernier à Bujumbura les journalistes sportifs burundais à leurs confrères du Rwanda. Au handball, la nouvelle qui a fait la une cette semaine est la disparition de 10 joueurs en Croatie. Ils étaient partis représenter le Burundi à la Coupe du Monde des moins de 19 ans. Nous ferons également le point sur le karaté et le volleyball. Les détails avec Alexandre Niyongeko.
Karaté pour commencer. L'équipe nationale a pris l'avion ce samedi à destination de Casablanca, la capitale du Royaume du Maroc. Elle va participer à la 22e édition senior du championnat d'Afrique des cadets et à la première édition para-karaté. Cette compétition continentale est organisée à Casablanca du 14 au 20 août 2023. Il s'agit d'un moment de rencontre entre passionnés du karaté et des arts martiaux, un grand public composé de familles, enfants et adultes de tout âge. Déplacement également ce week-end de l'équipe nationale féminine de volleyball vers le Cameroun pour représenter le Burundi à la Coupe d'Afrique des Nations seniors de volleyball féminin du 20 au 30 août 2023. Et revenons sur ces 10 handballeurs burundais qui se sont volatilisés ce mardi à partir de la Croatie qui abritait justement le championnat du monde de handball pour les moins de 19 ans. La nouvelle de leur disparition a été officialisée jeudi par la police croate dans un communiqué alors qu'il restait encore 2 matchs pour le Burundi. Le Burundi qui n'a gagné aucun match Dans les milieux sportifs de Bujumbura, cette disparition des joueurs burundais est largement discutée sur la toile. Certains y voient un signe des lendemains qui ne rassure pas pour les Burundais, et pour d'autres, c'est tout simplement une lâcheté. Enfin, les journalistes sportifs du Burundi réunis au sein de leur association ont livré ce samedi à Bujumbura un match amical avec leurs confrères du Rwanda qui se sont déplacés sur Bujumbura. Il s'agissait d'un match de renforcement de bonnes relations amicales entre le Burundi et le Rwanda à travers le sport. Un match qui s'est soldé par un match nul et vierge.
Alexandre Nyongeko, et c'est par vous que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Indamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.